Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Bernard de Fallois, l'édition, c'est un roman.
Le premier critère, la première raison de publier un livre, c'est le plaisir qu'on a pris à le lire. Alors, étant grand amateur de séries télévisées, et en particulier de séries policières, j'avais l'habitude de mettre sur mon appareil de magnétoscope un Columbo, et puis quand le crime est commis, vous savez que ça commence toujours pendant 10 minutes par la présentation d'un crime, au moment où l'inspecteur arrive, je ferme la télévision et je prends un manuscrit. Si le manuscrit m'entraîne au point d'oublier complètement ce que je viens de voir, ce que j'ai envie de savoir, et que j'oublie la télévision, c'est que vraiment le livre est plus fort que la série télévisée, et à ce moment-là, je n'hésite pas, je le publie.
Le plaisir, ça peut demander de la patience. Le premier livre que Fallois, volant de ses propres ailes, a publié, c'était Les Entretiens de Monseigneur Lustiger. Est-ce que c'est une affaire de plaisir? Je ne sais. En tout cas, l'entourage du cardinal hésitait, Fallois a attendu. Mais tout peut se faire aussi bien en un tournement. L'intuition de Bernard de Fallois lui faisait souvent prendre une décision en 5 minutes. Ce fut le cas avec son dernier auteur à succès, Joël Dicker. Fallois le lança de suite dans l'arène et ce fut un triomphe. Fallois avait alors 86 ans et Dicker seulement 27. Fallois disait qu'un homme manifeste son intelligence quand il fait preuve d'égard et de sollicitude pour les jeunes gens. Une fois ses choix faits, un éditeur doit ensuite savoir en faire commerce. Fallois s'intéressait d'abord dans la chaîne du livre aux représentants et aux libraires. Il détestait en revanche les agents littéraires, mais pas la publicité. Avant de créer sur le tard sa propre maison, il avait dirigé les presses de la cité et auparavant encore le livre de poche d'Hachette. Il fallait l'entendre raconter comment il avait réussi, pour le lancement de Jules Verne en format poche, à reconstituer un Nautilus dans la vitrine du pub Renault des Champs-Élysées. Il aimait le vaste public. Pagnol ou Simenon faisaient partie de ses auteurs fétiche. Fallois avait 91 ans. Une fois qu'il fut interdit aux véhicules hors d'âge de circuler à Paris, il avait fait classer sa vieille Mercedes en voiture de collection et il roulait toujours, car il le fallait pour continuer d'animer sa maison.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Marc Bressan, bonjour.
Bonjour.
Auteur de peut-être 10 romans ou textes et nouvelles chez Fallois. Vous êtes vendange tardive, hein. Lui, il s'est mis à son compte à plus de 60 ans et vous étiez déjà un vieux parapluie quand vous êtes présenté à Fallois.
Oui, mais l'important, c'est d'être vendangé, hein.
Ouais. Parce que
même si c'est sur le tard.
On vous connaissait comme diplomate, ambassadeur, directeur de l'audiovisuel extérieur, et vous étiez un élève timide devant le vieux professeur quand vous vous êtes présenté donc pour la première fois pour les mémoires d'un vieux parapluie, justement, chez lui.
Non, honnêtement, c'était un professeur accueillant et qui vous mettait tout de suite à l'aise. Alors, en l'occurrence, évidemment, il avait sans doute commencé à regarder le Columbo et puis finalement, il était passé sur mon manuscrit. Donc, il avait trouvé ça bien et tout de suite, il avait voulu le publier. Donc, il m'a convoqué pratiquement très gentiment. Il m'a dit, mais c'est très très bien, on le publie quand... Voilà. Et donc, non, au contraire,
comment,
c'était un professeur...
On publie sans corriger ?
On publie sans corriger, bien entendu. C'était pas du tout un correcteur. C'était quelqu'un qui pensait que chacun avait sa musique, qui pouvait quand même donner quelques conseils. Dire que, par exemple, le chapitre 3 était un peu long, mais n'empêche que la plupart de ces auteurs, un certain nombre ont eu droit à des corrections, mais la plupart étaient frappés par cette sorte de liberté d'éditeur qui, en plus, vous donnait l'impression que votre œuvre était très très bonne. Que c'était...
Mais quand même Nourricier, François Nourricier, avait bien raison, qui disait « Fallois n'aime pas les romanciers qui écrivent trop bien ».
Oui, bien entendu, hein, mais c'est bien pour ça que j'ai été publié. Mais Nourricier écrivait très très bien, lui, et donc c'est pour ça qu'on lit encore avec bonheur toute son œuvre.
Alors c'était un professeur qui passionnait ses élèves, Sévigné, Stanislas, d'autres établissements peut-être, des cours particuliers aussi, et il leur parlait de Proust. Elisabeth Roudinesco, la psychanalyste, dit « j'ai pas eu de meilleur professeur que lui, même si je n'étais pas souvent d'accord avec lui ». C'était pas si courant dans les années 50 de s'intéresser à Proust, et a fortiori de parler de Proust aux jeunes gens. Il avait d'ailleurs, jeune agrégé, commencé nécessairement une thèse, je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment fini sous la forme la plus universitaire, et cette thèse lui avait permis d'aller dans les papiers de l'héritière de Proust, Suzy Mante Proust, qui lui disait « Mais fouillez donc, là, comme vous voulez, non ?»
Oui, enfin, c'est ce qu'il racontait, en tout cas. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait très largement écrit un pastiche, ce Proust, qui s'appelle Jean Santeuil.
Mais... Comment ça? Alors, il a trouvé des vieux papiers, et un manuscrit inachevé.
Il était tout seul dans son coin, et il aurait tout à fait pu inventer tout à fait Jean Santeuil, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Il acceptait, quand vous disiez.
Oui, il trouvait ça plutôt rigolo. Enfin, c'est pas d'une drôlerie extrême, je reconnais, mais il trouvait ça plutôt rigolo qu'on mette en question. Dans le cadre, justement, de cette, ce motif que vous avez lancé au départ, c'est-à-dire que l'édition est un roman. Donc, finalement, qu'il soit aussi un personnage de ce roman, ça ne lui faisait pas déplaisir.
Enfin, il était quand même capable d'argumenter. Ici, on l'a dans l'émission de Pierre Assouline, première édition, chez France Culture, en disant que ce qu'il avait découvert, il ne l'avait pas reconstruit, c'était au contraire la fondation du travail de Proust.
Il faut quand même rappeler aux auditeurs que vous avez découvert le manuscrit de Jean Santeuil et surtout de ce qui est devenu Contre Sainte-Beuve,
c'est ça.
Qui est un livre donc, dans la Pléiade, notamment, aujourd'hui. Et le titre, Contre Sainte-Beuve, il est de vous, il n'est pas de Proust.
Oh, il est de Proust. Il est de Proust. C'est-à-dire que ce n'était pas en son idée un livre, c'était un article. Un article intitulé pour Destiné au Figaro et intitulé Contre Sainte-Beuve, dans lequel il résumait en quelques pages son point de vue sur la critique littéraire et sur l'essence de la littérature. Et puis cet article, ce que je racontais dans la préface de ce livre, il a eu l'idée de le présenter non pas comme un essai, comme un article, mais comme le récit d'une conversation avec sa mère. Et il racontait comment il se réveille le matin dans sa chambre, comment sa mère entre dans sa chambre, comment il commence à parler avec elle, comment il lui parle de Sainte-Beuve, comment un dialogue s'instaure entre eux. Et puis, il se met à décrire aussi les gens qui habitent le même immeuble. Et petit à petit, ce Contre Sainte-Beuve est devenu un roman, est devenu La Recherche du Temps Perdu. Et de l'origine, c'est-à-dire de cette idée de qu'est-ce que la littérature, il a fait la dernière partie de son roman, c'est-à-dire Le Temps Retrouvé.
La voix de Bernard de Falloise, c'était dans la matinale de France Culture. Je voulais rendre hommage à Georges Kiossef, réalisateur de cette matinale pendant une douzaine d'années, dont ce sont les obsèques tout à l'heure, à la cathédrale orthodoxe russe de la rue Daru. Le fouilleur... Bernard de Falloise, qu'on enterrait lundi à Notre-Dame de Passy, tout près de la maison de la radio, il a eu un grand plaisir à retrouver les poèmes brûlants d'amour de Paul Valéry.
Oui, c'est une belle histoire, en fait, Paul
Alors,
Valéry.
Alors racontez-la, c'est un roman.
A donc, pendant les 5 dernières années de sa vie, reçu tous les dimanches une dame qui s'appelait, en littérature, Jean Voilier. Et donc, ils s'entendaient parfaitement. Et quand elle partait le dimanche soir, il écrivait un poème qui lui envoyait. Et ces poèmes, Jean Voilier les a sans doute accumulés dans un carton à chapeau, et puis il s'est passé beaucoup de temps. La famille de Paul Valéry n'avait pas une grande envie que ça soit publié, compte tenu des circonstances et du fait que peut-être ces poèmes n'étaient pas à la hauteur de la jeune Parc. Hein. Et longtemps plus tard, donc, Jean Voilier, à son tour, a disparu. Et...
Je précise à nos auditeurs, c'est Jeanne Loviton, c'est une dame. Hein. Voilà. N'accablons pas, oui. Paul Valéry.
N'accablons pas Paul Valéry. Et donc la famille a eu plus ou moins l'idée de disperser tous ses poèmes. Et là-dessus, un ami sans eux de Jean Voilier qui était japonais, a tout racheté et a cédé tout ça quand il est mort avec des estampes etc. à son université japonaise. Et dans ce carton, ses poèmes sont restés pendant des années et des années. Bernard de Falloise a pris ça, grand amoureux de Paul Valéry. Et il a eu l'idée de publier tout de suite les poèmes. Alors, il n'a pas tout publié. Ça a été assez compliqué, quand même, avec la famille. La fille était morte. Heureusement, la petite fille était très ouverte.
Ça, c'est le genre d'histoire qu'il aimait. Il paraît même que Paul Valéry, si digne, avait une garçonnière, une chambre pour abriter ses amours et qui n'y lisait, en l'attente de la dame, que des romans policiers couvraient les murs.
Ce que je peux dire simplement, c'est que Vérand de Fallois a fait une préface qui est devenue finalement une postface et qui est un texte formidable, car cet homme qui prétendait ne pas savoir écrire était en fait un écrivain fabuleux.
On a fait pour Pierre Berger un recueil de préfaces, je ne sais pas si c'est justifié, on pourrait faire un recueil des préfaces.
Il faut absolument
le faire. De Fallois. Donnant des cours, dit le roman, au fils peu doué du patron de Hachette, monsieur Itier de Roquemorel, il entre dans la maison peu après qu'a été fondé le livre de poche, qui dans les années 1960 a provoqué tant de débats chez les intellectuels, qu'il résumait avec son expérience ainsi.
Juste en deux mots, vous pensez aujourd'hui encore que le livre de poche n'a pas tué, en partie en tout cas, l'édition traditionnelle?
Ah, pas du tout. Ça ressort des chiffres, mais on l'a craint.
Oui.
Quand le livre de poche a commencé, la plupart des vendeurs de livres, la plupart des libraires étaient persuadés que ce serait la mort de l'édition, la mort de la librairie, la mort de la littérature. Et les auteurs et les éditeurs qui ont consenti à donner leur titre au livre de poche et à participer à ce mouvement étaient considérés comme des audacieux. Et puis, les choses se sont établies, les collections de poche sont aujourd'hui une part importante des ventes de livres en littérature, elles aident les éditeurs, et je ne crois pas qu'on ait pu montrer qu'elles compromettent le sort de la littérature générale.
Il aimait rapprocher le vaste public de Proust, par exemple, Proust en livre de poche. Mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il publiait en livre de poche dans ces années 60?
Dans les premiers titres qu'il a publiés, enfin, c'était un joyeux désordre apparemment, hein, puisqu'il y avait à la fois Daphné du Maurier, Rebecca, mais aussi Le Petit Prince, Les Mains Sales, enfin donc des auteurs les plus divers, qui correspondaient quand même d'une certaine façon à un objectif commercial qui était de toucher le maximum de public, mais aussi à un choix personnel de Bernard de Fallois qui pensait que tout ce qui était écrit et qui avait un petit peu de sens méritait d'être connu. Et lui, il se passionnait vraiment pour des choses très diverses, y compris l'inspecteur Colombo à la télévision, hein, qui est quand même pas une série magique, mais il regardait tout ça avec beaucoup d'intérêt. Il préférait quand même les séries dans les dernières années en France. Il avait une sorte de passion pour la série qui s'appelait Sarkozy, puis Hollande, puis Macron. Et il riait comme un fou en disant « mais c'est incroyablement amusant, aucun auteur ne pourrait faire quelque chose d'aussi brillant, d'aussi divers et d'aussi dément ».
Mais parmi les auteurs de séries, Georges Simenon, il a écrit beaucoup de préfaces, mais il a écrit un livre entier sur Georges Simenon, dont Georges Simenon disait que c'était le meilleur de ceux qui lui avaient été consacrés.
Oui, c'est un livre formidable, où notamment Simenon et les impressionnistes, enfin c'est ça je me souviens, mais à quel point Simenon avait regardé les impressionnistes, et quand on lit ses livres en se disant que c'était un fanatique de la peinture impressionniste, brusquement on s'aperçoit de l'éclat de ces livres, qui racontent des histoires, mais aussi qui créent une sorte d'univers pictural absolument magique.
Mais sinon, les impressionnistes, on n'y pense pas au premier abord. C'est ça qui était fascinant dans la conversation de Bernard de Fallois. Il y avait toujours un point de vue original.
Oui, il était toujours à contre-pied, à contre-courant, et il aidait à voir la situation, il aidait à voir le monde, et à la fois c'était quelqu'un qui avait des réactions de droite, etc., en même temps qu'il pouvait être très gauchiste, il pouvait se passionner pour un livre d'extrême-gauche, pouvait publier Poliakov, etc.
Il passe aux presses de la Cité après avoir longtemps dirigé le livre de poche chez Hachette. C'est peu après la crise entre Gallimard et Hachette, Gallimard rachetant son fonds. Il va quitter les presses de la Cité où il gardait son écurie, son catalogue propre, notamment via Julliard, quand Jimmy Goldschmidt, qui avait déjà siphonné l'Express, achète le groupe Presse de la Cité. C'en est trop pour lui, mais quand il prend son indépendance, il s'exprime ici en 1988 chez Bernard Pivot, peu après la création de la maison de Fallois, il porte sur les grands groupes un regard quand même mesuré, mais il s'exprime toujours courtoisement.
À propos des grands groupes, je crois que c'est un mouvement naturel qu'il se soit créé.
C'est le souci de tout État de fixer des seuils à la concentration. Et peut-être en France, les lois concernant ces seuils de taille ne sont pas assez nettes. Et il est possible que les deux groupes actuels, qui représentent à eux deux à peu près, si le rapport que j'ai lu est exact dans ces chiffres, 85% de la distribution du livre en France, dépassent le seuil normal. Si ce dépassement devait entraîner la disparition des maisons moyennes dont vous parlez, ou l'impossibilité de naître des petites maisons, ce serait certainement dommageable, parce qu'il n'y a pas d'édition sans pluralisme, il n'y a pas de culture sans pluralisme, et il n'y a pas de pluralisme avec deux groupes qui détiendraient tout et par lesquels tout devrait passer, et qui, ce qui est le plus grave, même s'ils n'en avaient pas la volonté, risqueraient d'écraser les autres. Car le plus souvent, le danger des très grandes tailles, c'est qu'on écrase sans même le vouloir, et en ayant même consciemment le désir de ne pas le faire. On risque d'écraser. Mais un autre danger qui guetterait à ce moment-là l'édition française serait que, comme il est normal dans ces grands groupes, le but, ce dont on rêve, la valeur au nom de laquelle on juge les activités des uns et des autres, ce soit le profit et la taille.
Et non pas
être le plus grand. Être le troisième, mais si possible le deuxième, et si possible le premier, ou avoir le meilleur taux de rentabilité. Être dans les 10 premiers de la liste annuelle des entreprises les plus performantes. C'est un fait que les éditeurs qui ont laissé leur nom comme apportant quelque chose par leur activité modeste d'hommes qui servaient, qui accouchaient les livres, ces gens-là n'avaient pas du tout pour but d'être les plus grands. Oui. Ni les plus profitables.
Marc Bressan, sous un autre nom, Patrick Imos, vous avez été ambassadeur. C'est très très bien dit. Il est possible que si de grands groupes, mais c'est pas qu'ils le souhaiteraient, pourraient, ça veut dire que c'est un langage franc.
Je pense que
en matière diplomatique.
Non, la franchise n'était pas vraiment. Il n'avait pas peur de la franchise. Il disait les choses quand même. C'était un homme poli. Il disait les choses. Je crois qu'il ne savait pas trop quand même. Hein. Et par exemple, j'ai vu sa réaction, non pas par rapport à ça, mais par rapport au livre numérique. Il se posait les questions, et donc il a même été à des cycles de formation pour comprendre ce qu'il y avait derrière le livre numérique. Donc c'est plutôt ces incertitudes, à mon avis, qu'il y a, plutôt qu'un langage diplomatique.
Plutôt des incertitudes et une curiosité de l'avenir qu'une condamnation du présent.
Oui, alors, ça, la curiosité était quand même insensée. Enfin, soudain, il s'emparait d'un sujet, soudain, ça devenait le sujet essentiel, et il cherchait à trouver un auteur qui pourrait raconter ça, etc. Enfin, il avait, jusqu'à la fin, vraiment, il a eu cette curiosité incroyable.
Avec son groupe, une curiosité le prend, c'est la curiosité du cirque. Alors, il semble, dit le roman, qu'un groupe d'enfants de la balle espagnol était abandonné dans un bois parisien par leur impresario, on dit aussi par un prêtre. Et les copains de Fallois et lui-même décident de les prendre en charge. Mais alors les prendre en charge, ça veut dire notamment les produire, hein.
Oui, c'était des
histoires. Produire jusqu'où, grand Dieu?
Des histoires complètement romanesques. On revient au titre de l'émission, hein. C'est-à-dire que là, soudain, il voit ses pauvres enfants un peu perdus sur le pavé de Paris, grugés par un impresario. Il va mettre en branle alors tout son appareil, toutes ses relations, et notamment Michel Guy, je crois, qui était ministre
à
l'époque,
d'État à la culture,
et qui lui dit vous avez qu'à prendre le Grand Palais, organiser ça au Grand Palais. Donc, il organise une sorte de succès, de triomphe des muchachos au Grand Palais.
Ce sont les muchachos, 100 jeunes garçons, vifs argent, souriants et artistes jusqu'au bout des pieds, ambassadeurs d'une étonnante République espagnole des gosses, à travers l'Europe, où ils rencontrent partout un accueil triomphal. Une brillante cavalerie, un orchestre infatigable et dynamique, dans le décor et les 15 tonnes de matériel et de costumes d'Arlequin qui suivent partout ces muchachos.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Marc Bresson, nous parlons du grand éditeur qui est mort la semaine passée, Bernard de Fallois, qui pouvait aussi être un passionné de cirque. Il avait dans son bureau des chapeaux de clown dans une vitrine. Ces chapeaux de clown lui donnaient le motif de beaucoup de méditation. Alors, vous m'avez apporté, Tristan Rémy, les clowns. Encore une préface de Bernard de Fallois. Tristan Rémy, c'est un camarade de Bernard de Fallois. Il était à l'Humanité, c'est ça?
Oui, ça. Donc, il venait quand même un peu d'un autre monde que l'Humanité avait, pour déviationnisme, mis sur le cirque, qui n'était pas quelque chose qui leur paraissait dangereux, et qui est devenu vraiment un spécialiste incroyable du cirque. Et quand ce garçon est mort un peu obscur, Bernard de Fallois trouvait que le destin était trop injuste, et il a fait rééditer sa grande histoire du cirque, et il en a fait une préface d'une vingtaine de pages, brillantissime.
Et dans cette préface, il y a quelques pages lumineuses sur l'art clownesque de la Ve République. Dans le Canard enchaîné, hier, on voyait Emmanuel Macron faire de l'ombre au Premier ministre, Édouard Philippe, et lui dire « mais attends un peu, ça va être la question de Notre-Dame-des-Landes qui sera sur le tapis, tu prendras la lumière ». Alors, voilà que Fallois explique toute la Ve République, encore le don du point de vue inattendu, comme une collaboration entre l'Auguste et le clown blanc. L'Auguste, le Premier ministre, devant être dévoué au clown blanc.
Absolument. Hein. Et donc, sa théorie fait 4 ou 5 pages. Elle est lumineuse. Elle est évidemment paradoxale et absurde au départ. Mais finalement, il en donne quelques exemples. Et comment Giscard et Barre, c'est formidable parce que l'Auguste est là, Barre et le clown blanc peut vraiment jouer le clown blanc, donner des coups de pied au derrière de l'Auguste quand il le faut. Et qu'en revanche, évidemment, le même avec Chirac, deux clowns blancs, ne pouvaient que aller vers l'échec. Et donc c'est toute l'histoire de la Ve République en 3 pages qu'il raconte à partir de là, et en faisant de la figure des clowns, et de ces deux clowns-là, une sorte de métaphore de l'humanité, du fonctionnement de l'humanité. Hein. Donc il avait une sorte de capacité, à partir d'un fait apparemment banal, à expliquer l'ensemble du monde.
Oui, parce que si ça marche, la Ve République, avec ce système des deux clowns, alors que c'est absurde, dit Bernard de Fallois, c'est parce que ça plaît à tout le monde, comme le cirque. Il ne plaît pas à tout le monde, Bernard de Fallois. Il y a eu 3 lignes dans Libération pour saluer son départ, 3 pages pour POL. Et pourtant, il pouvait aimer le rap.
Oui, alors Bernard aimait le rap. Bernard a, par exemple, publié un magnifique livre, un magnifique roman où le rap est très présent, et donc il s'appelle L'amour nègre, d'un merveilleux auteur, Jean-Michel Olivier, il y a 3 ou 4 ans, qui a eu le prix Interallié, d'ailleurs par hasard. Et il s'était passionné pour ce livre qui, sur le plan formel, aurait très bien pu être passionné Paul, par exemple, très bon éditeur aussi, hein, mais je veux dire, Bernard n'était pas du tout univoque comme on a eu tendance à le dire.
Mais vous savez, Paul, c'est pas dans Libération qu'on l'apprend. Paul, il adorait Louis de Funès. Il a donné beaucoup d'argent, explique dans La Croix, Alain Raymond. Il a promis beaucoup d'argent à Alain Raymond pour faire un livre sur De Funès, puisqu'il voulait rencontrer le cinéma de De Funès, de même que Fallois voulait absolument rencontrer Cora Vauquer. C'est pour ça qu'il a publié un livre de Martin Pénem, et Cora Vauquer était devenue invisible.
3 petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour, sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue.
Mais il ne faut pas imaginer Bernard de Fallois comme quelqu'un qui vieillit avec ses auteurs. Je ne dis pas ça du tout pour vous, hein. Marc Bresson.
Je suis très jeune. Hein.
Il pouvait avoir des coups de cœur, faire des découvertes, Rousseau et Dickers. Alors, il allait dans à ce moment-là, 2011, 2012, partout dans Paris, paraît-il, en disant « Oh là là, moi je raccroche le bail de la rue Boétie, la Boétie, je le résilie. Ah ben, il y a peut-être encore quelque chose là qui mérite quand même votre attention. »
Vous savez ce qu'il a fait de Fallois ?
Des miracles, comme
non, il a passé des coups de fil à peu près tout le monde. Alors, moi qui fais partie, je le dis, et peu importe pour ceux qui le croient ou pas, de ceux qui ne prennent jamais les éditeurs en ligne et qui ne déjeunent pas avec ces gens-là, quand j'ai reçu un coup de téléphone de Fallois, j'ai pas répondu, puis j'en ai reçu un deuxième, puis un jour, mon assistante m'a dit, il faudrait quand même que tu rappelles de Fallois parce que vous avez trois fois qu'il téléphone, et il m'a dit, écoutez, je vous demande juste une chose, lisez le début, lisez 20 pages, mais je pense que vous en lirez davantage. J'ai pris votre bouquin, j'ai lu 20 pages, j'ai mis 3 semaines à le faire. Et puis j'en ai pas lu 20 pages, j'ai lu en 3 jours les 170, et c'est très très rare que ça se présente comme ça.
Et de qui Fallois parlait-il, François Bunel qu'on vient d'entendre, à d'autres, d'un inconnu de Dicker?
Dicker, oui.
Joël Dicker, encore un Suisse?
Encore un Suisse, hein, les Suisses sont partout. Et effectivement, c'était une sorte de passion, mais c'est venu aussi à un beau moment, parce que en fait, quand il a voulu raccrocher les gens de l'édition, vous savez, les gens Enarc, Harvard Business School et compagnie, lui ont dit, mais monsieur de Fallois, dès que vous n'êtes plus là, de toute façon, votre maison ne vaut plus rien. Bon. Et Bernard était dans un état de fureur tel qu'il s'est dit, j'aurai ma revanche. Et là-dessus, Joël Dicker est arrivé au bon moment, et tout de suite, il a publié, enfin, Dicker l'a raconté, hein, il voulait corriger des choses, Bernard lui a dit, non, on publie. Et donc, Bernard était un joueur de poker aussi, enfin, c'est un côté qui n'apparaissait pas, peut-être, aux visiteurs, mais il adorait tout de suite vérifier que ses intuitions étaient justes, éventuellement qu'elles étaient fausses d'ailleurs, mais cette volonté d'aller très vite était tout à fait jusqu'au bout une de ses qualités dominantes.
Alors on l'attend après La vérité sur l'affaire Harry Kepper et puis d'autres livres, un quatrième roman de Joël Dicker, mais dès qu'il est plus là, c'est fini.
À mon avis, ce n'est pas fini du tout. D'abord parce que Joël Dicker, il a quand même quelques dizaines de millions de lecteurs à travers le monde qui l'attendent.
Il y a aussi au catalogue de Bernard de Fallois d'autres demi-cents qui méritent d'être considérés, non?
Non, mais il a, par exemple, si on prend, en dehors du domaine du roman, il a deux ou trois biographes, dont Simone Berthière et Charles Orgbib, qui sont vraiment parmi les très grands biographes d'aujourd'hui, hein, dont les livres d'ailleurs fonctionnent très bien, même si la presse en rend beaucoup moins compte que de biographies beaucoup moins bonnes publiées chez des éditeurs, disons, qui ont pignon sur rue plus que Bernard, qui ne sont pas des déviants.
Vous en voulez à la presse de ne pas avoir assez considéré Bernard de Fallois au moment de sa disparition?
Oui, je trouve que c'est pas bien, hein, c'est pas bien. D'autant qu'il était assez facile de faire une sorte de grande comparaison la plus tard que entre Paul et entre Bernard de Fallois, deux grands éditeurs. Paul, évidemment, personne ne peut nier qu'il a découvert beaucoup d'auteurs, etc. Mais Bernard de Fallois, avec une approche totalement différente et beaucoup plus pragmatique, avec des centres d'intérêt multiples, a aussi ouvert la voie et à de très nombreux auteurs. Hein. Je parlais de Dicker, pas de Dicker, de Olivier, mais on pourrait en citer bien d'autres qui ont vraiment apporté quelque chose au roman.
Assurez-vous, puisque c'est la fin de l'émission, de n'avoir rien oublié. Je cite un titre un peu dissimulé de Marc Bressan, chez Fallois.
Moi, j'ai tout oublié, bien entendu, mais...
Si vous avez oublié quelque chose, il était méchant.
Il était méchant.
Un exemple ou deux, non? Jamais à votre endroit?
Il n'a jamais été méchant à mon endroit. Je ne donnerai pas d'exemple, mais il était bon aussi. Il était bon, c'est plus tard. Les gens dans le désarroi, les gens qui lui avaient tendu la main à une époque, il les a aidés jusqu'au bout. Et je voulais juste dire une chose qui m'a toujours fasciné. Chaque fois qu'on disait, mais c'est le dernier grand éditeur cultivé de la place, ça le faisait rigoler. Et un jour, il m'a expliqué, écoutez, je peux vous dire, c'est pas une boutade, je ne suis jamais entré au Louvre de ma vie.
Ça, c'est une révélation, quelque chose d'inattendu. Le passé est toujours inattendu avec Bernard de Fallois, mais il se passionnait surtout pour le présent et l'avenir, encore plus inattendu. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille, avec à la technique Loïc Frapsos. La préparation, c'était Elinka Ripouille. Negulesco, et voici le générique de la marche de l'histoire pour annoncer l'émission d'après 14h, qui est celle de Mathieu Vidard. Et qu'est-ce que vous avez au programme, Mathieu ?
On va parler de la science des volcans, donc on prend le relais avec la tête au carré dans un instant, Jean.
Voici donc maintenant, puisqu'il est 14h, les informations.